Rock.
Classique 21, le moment M. Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui, je vous raconte le moment qui est à l'origine de la chanson Nebraska de Bruce Springsteen. New Jersey, États-Unis. À la fin des années 1950, l'Amérique se raconte encore comme un pays en mouvement, confiant, tourné vers l'avenir. Les routes symbolisent la liberté, les petites villes incarnent la stabilité. Mais en 1958, cette image se fissure brutalement. Cette année-là, un jeune homme de 19 ans traverse le Midwest en laissant derrière lui une série de meurtres qui vont choquer le pays. Son nom ? Charles Starkweather. Starkweather grandit dans le Nebraska, dans un environnement modeste, sans éclat particulier. Enfant solitaire, souvent moqué, il nourrit très tôt un sentiment de marginalisation. Il se sent inférieur, humilié, invisible. À l'adolescence, cette frustration se transforme en colère froide. Il admire James Dean, rêve de reconnaissance, mais n'obtient ni succès, ni statut, ni avenir clair. Lorsqu'il rencontre Caroline Fuguette, une adolescente de 14 ans, il trouve à la fois une complice et un miroir. Ensemble, ils entament une cavale absurde et sanglante. Les victimes ne sont pas des ennemis. Ce sont des commerçants, des familles, des inconnus croisés sur la route, des gens ordinaires dans des maisons ordinaires. Ce qui frappe les enquêteurs, ce n'est pas la sophistication du crime, mais son absence totale de justification. Starkweather ne revendique rien. Il ne parle ni d'idéologie, ni de revanche sociale structurée. Il tue sans justification cohérente, mu par une colère brute et un sentiment d'exclusion. Il tue car il a fini par trouver sa philosophie personnelle, selon laquelle il va vivre le reste de sa vie. Les gens morts sont tous au même niveau. Arrêté en 1958, jugé rapidement, il devient une figure dérangeante pour l'Amérique. Non pas parce qu'il incarne le mal absolu, mais parce qu'il n'a rien d'extraordinaire. Il ne correspond pas au mythe du monstre. Il ressemble à un garçon banal, presque transparent. Condamné à mort, Starkweather est exécuté en 1959, à seulement 20 ans. L'affaire se referme judiciairement. Mais quelque chose reste suspendu. Une question sans réponse claire. Comment une telle violence peut-elle surgir sans cause identifiable ? Comment un pays construit sur l'idée de progrès peut-il produire ce vide moral ? 20 ans plus tard, cette histoire ressurgit dans l'esprit de Bruce Springsteen. Au début des années 1980, Springsteen est au sommet. The River a rencontré un immense succès. Les concerts sont gigantesques, la ferveur populaire intacte. Bruce est devenu une voix de l'Amérique ouvrière. Celle qui chante la dignité, la solidarité, la résistance. Mais intérieurement, le doute s'installe. Derrière les hymnes collectifs, Springsteen ressent une fatigue morale. Il s'interroge sur ce qu'il raconte vraiment et sur ce qu'il ne raconte pas. En lisant des articles consacrés à l'affaire Starkweather, Bruce n'est pas fasciné par le crime. Ce qui le trouble, c'est le silence, le ton neutre des récits, l'impression que personne ne cherche à comprendre, seulement à classer et à oublier. Il comprend alors que Starkweather n'est pas une anomalie, mais un symptôme. Le produit d'une Amérique où certains restent au bord de la route sans voix, sans horizon, jusqu'à ce que la violence devienne leur seul langage. Springsteen ne veut pas raconter cette histoire pour choquer. Il veut l'utiliser comme un miroir tendu à un pays qui préfère les récits héroïques aux zones d'ombre. Un pays qui célèbre la route, mais refuse parfois de regarder ceux qui s'y perdent. Très vite, Bruce comprend une chose essentielle. Cette histoire ne supporte pas l'emphase. Elle ne peut pas devenir une chanson rock. Elle ne peut pas être portée par des chœurs ni amplifiée par une batterie. Elle exige la sobriété, la distance, presque le retrait. À l'hiver 1981, Springsteen s'isole chez lui, dans le New Jersey. Le E Street Band, son groupe d'accompagnement de toujours, n'est pas là. Il n'y a pas de producteur, pas de studio, pas d'objectif commercial. Seulement une envie, capturer une vérité brute. Dans une pièce froide, il installe un magnétophone 4 pistes, une guitare acoustique, un micro posé près de lui, la nuit autour. Il enregistre comme on consigne un témoignage. La voix est proche, sans effet. On entend le souffle, les silences, parfois la pièce elle-même. Chaque mot est posé sans jugement. C'est dans cette atmosphère que naît Nebraska, une chanson racontée à la première personne, depuis l'intérieur du crime. Pas pour excuser, mais pour constater. Springsteen ne cherche pas à expliquer Starkweather. Il refuse la psychologie facile. Il refuse la morale appuyée. Il se contente de montrer un homme face à ses actes, incapable de leur donner un sens. Et au cœur de cette chanson, une phrase tombe, simple, presque résignée. J'imagine qu'il y a simplement une forme de cruauté dans ce monde. C'est pas une conclusion, c'est un aveu d'impuissance. Dans cette chambre d'hiver, Bruce Springsteen comprend qu'il vient d'écrire quelque chose de différent. Une chanson qui ne rassemble pas, qui ne console pas, qui observe. Il ne le sait pas encore, mais ce choix, raconter l'Amérique à travers ses marges, sans filtre, sans grandiloquence, va redéfinir sa manière de composer. Et surtout, il comprend que cette chanson ne devra jamais être embellie. Parce que parfois, pour dire la vérité, il faut accepter de laisser le monde tel qu'il est, silencieux, rugueux et profondément inquiet. L'affaire Starkweather est le moment à l'origine de la chanson « Nebraska » qui paraît en septembre 82 sur l'album éponyme, le 6e de Bruce Springsteen. Avec Nebraska, Bruce Springsteen ne cherche pas à raconter un fait divers de plus. Il s'attaque à quelque chose de beaucoup plus inconfortable, la banalité du mal. Le choix de la première personne est central. Springsteen ne parle ni des victimes, ni de la police, ni de la société. Il laisse la parole à celui qui a commis l'irréparable. Non pour l'excuser, mais pour constater ce qui, dans ce monde, peut mener à une telle violence sans qu'aucune explication claire ne vienne la justifier. Le narrateur de Nebraska ne se plaint pas. Il n'exprime ni remords, ni colère spectaculaire. Il avance dans le récit comme on avance sur une route droite, sans détour possible. Cette neutralité est précisément ce qui rend la chanson si dérangeante. Elle empêche toute lecture confortable. L'auditeur ne peut ni compatir pleinement, ni condamner à distance. Il est placé dans une position inconfortable, celle du témoin silencieux. L'écriture de Nebraska participe pleinement à cette impression de froideur maîtrisée. Les paroles sont dépouillées, presque sèches. Les phrases sont courtes, factuelles. From a town of Lincoln, Nebraska, with a sawed off 410 on my leg, through the badlands of Wyoming, I killed it. De la ville de Lincoln, dans le Nebraska, avec un fusil calibre 410 scié, posé sur mes genoux, à travers les Badlands du Wyoming, j'ai tué tout ce qui s'est trouvé sur mon chemin. Les lieux sont nommés sans emphase. Lincoln, Nebraska, Wyoming. Chaque élément semble posé comme une pièce dans un dossier, sans commentaire. Springsteen adopte une écriture proche du procès-verbal, où chaque détail compte, mais où rien n'est souligné. Ce refus du pathos empêche toute dramatisation inutile et renforce la violence du propos. Springsteen ne propose pas une explication sociologique, ni un diagnostic politique. Il suggère une idée plus vertigineuse encore. Peut-être que le mal ne s'explique pas toujours. Peut-être qu'il existe, tout simplement, comme une donnée brute du réel. Cette absence de conclusion morale est l'un des choix les plus radicaux de la chanson. They declared me unfit to live. Said into that great void my soul be heard. He wanted to know why I did what I did. Well, sir, I guess it's just a meanness in this world. Ils m'ont déclaré inapte à vivre. On dit que mon âme serait jetée dans ce grand vide. Ils veulent savoir pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait. Eh bien, monsieur, j'imagine qu'il y a simplement une forme de cruauté dans ce monde. Musicalement, Nebraska est réduit à l'essentiel. Une guitare acoustique, une voix, du souffle, du silence. Aucun arrangement ne vient soutenir l'émotion. Aucun effet ne vient guider l'auditeur. Le son est brut, presque fragile. La chanson semble enregistrée non pas dans un studio, mais dans un espace mental clos, étouffé. Le choix du magnétophone 4 pistes n'est pas esthétique. Il est éthique. Springsteen comprend instinctivement qu'un son plus riche trahirait le propos. Ajouter une batterie, une basse ou des chœurs reviendrait à enjoliver une histoire qui refuse tout embellir. Ici, la pauvreté sonore devient une forme de vérité. Elle impose une distance glaciale entre le récit et l'émotion. À sa sortie, Nebraska surprend profondément. L'album paraît après The River, double album au succès massif et avant Born in the USA. Il est donc coincé entre deux géants, mais choisit volontairement le retrait, le silence et l'ombre. Alors que le public attend un disque dans la continuité de The River, il découvre un album sombre, introspectif, sans single évident, presque hostile à toute forme de séduction. Commercialement, le disque ne provoque pas d'explosion immédiate, mais artistiquement, il est perçu comme un geste d'une rare radicalité pour un artiste de cette stature. Avec Nebraska, Springsteen accepte de ne pas rassembler. Il accepte même d'isoler. Il prouve qu'un artiste populaire peut renoncer à la puissance collective pour explorer les zones les plus sombres de son pays. Ce choix ouvre une fracture durable dans la discographie du boss. Il devient à la fois le chanteur de l'espoir et le chroniqueur des marges, des silences et des impasses. L'héritage de Nebraska dépasse largement la chanson elle-même. L'album redéfinit ce que Springsteen accepte de faire avec sa musique. Il ne s'agit plus seulement de porter des hymnes. Il s'agit aussi de regarder l'Amérique sans chercher à la sauver. Nebraska ne propose aucune solution. Elle ne répare rien. Elle ne console personne. Elle observe. En refusant toute distance morale, Bruce Springsteen nous oblige à rester face à cette idée dérangeante. Parfois, le mal n'a pas de grand récit. Il est simplement là, silencieux, ordinaire et tristement humain.
Saw her standing on her front lawn, just a twirling her baton. Me and her went for a ride in ten innocent people down. From the town of Lincoln, Nebraska, with a sawed-off 410 on my lap, through the badlands of Wyoming. I killed everything in my path. I can't see that I'm sorry for the things that we've done, at least for a little while, sir. Me and her, we had us some fun. Now the jury brought in a guilty verdict, and the judge sends me to death. Midnight in prison storeroom, leather straps across my chest. Sheriff, when the man was that sweet, sir, and snaps my poor head back, you make sure my pretty baby sitting right there on my declared me unfit to live. Said into that great void my soul be hurled. He wanted to know why I did what I did. Well, sir, I guess it's just a meanness in this world.
Retrouvez tous les épisodes de cette séquence sur l'app RTBF Actu.
Classique 21, le média rock de la RTBF.